Merci déjà beaucoup d'être là pour Nostalgie. On va parler de cet album en deux volumes, du coup, Héritage.
Oui.
Première question, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs pourquoi on va parler aujourd'hui d'Héritage 2 et pas de Héritage 1, comme le voudrait le...
C'est simplement parce que j'ai de l'éducation. J'ai été éduqué par des femmes, ma mère, ma tante, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, et qui m'ont toujours expliqué qu'il fallait bien se comporter avec les invités. Et quelqu'un qui va sortir sur un album en octobre plutôt qu'en mai sera peut-être quelqu'un qui sera déçu de pas sortir avant les autres. Donc j'ai privilégié cette idée-là. Donc en octobre, ça sera le volume 1, comme ça tout le monde est content. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est original, j'aime bien
l'idée. Bah oui, et puis en plus, peut-être que je ferai un volume 3. Et puis c'est aussi dans une espèce de... Comment dire, on peut aussi parler de George Lucas, évidemment, qui a commencé par le 4, 5, 6, La Guerre des Étoiles, et ça m'a marqué. Ça fait partie aussi de mon héritage. Quelqu'un qui n'aura pas assez de toute une vie pour réaliser toutes les idées qu'il a, ça, c'est aussi moi. Donc non, c'était histoire de faire parler, de rajouter une question à votre interview. C'est ce que je dis aussi, voilà. Et après le volume 2, il y aura volume 1, et après évidemment le volume 4.
Et l'idée de départ pour cet album, pour ce...
Alors l'idée de départ, en fait, c'est simplement suivre le fil de ma fan attitude, puisque je me définis en tant que fan depuis le début. Mariti Gilbert Carpentier, ça a commencé avec les émissions de télé, les chansons que j'ai découvert dans la télé, dans toutes ces émissions, numéro 1A, spécial, machin, enfin bref. Et puis Rennes avec la fan attitude avec Marc Itzad et puis tous ces groupes de rock qui m'ont fait découvrir la musique. Donc la bascule totale de la variété au rock. Et j'ai commencé à tirer le fil avec l'album Fan. Et puis il y a eu l'album avec Isabelle Adjani, un album de fan aussi, non seulement pour Isabelle mais de tous les invités qu'on a eus. Il y a eu l'archipel des séquelles avec toutes ces merveilleuses voix qui m'ont accompagné. Et donc en fait, je tire cette espèce de fil de ma philosophie qui dit que je n'existe que grâce à l'autre et non pas à cause. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis un espèce de fou de musique. Et quand quelqu'un ne connaît pas une chanson, je lui dis tu as beaucoup de chance de ne pas connaître cet album ou cette chanson parce que tu vas découvrir quelque chose de merveilleux. Donc moi je suis un éternel fan, tout simplement. Et Héritage est simplement, encore une fois, la déclinaison de ma philosophie, toujours aller chercher chez l'autre quelque chose, toujours comment dire, pour apprendre, parce que je suis curieux, et parce que aussi j'ai une application qui s'appelle Obispo All Access, où je me suis amusé à faire une anthologie de la chanson française que je n'ai pas encore fini, qui est sur 1700 titres que je reproduis, que je reprends par artiste ou quelquefois des chansons isolées qui vont faire l'objet de compilations sur l'application. Et en faisant cette anthologie de la chanson française, puisque à cause de l'intelligence artificielle qui est utilisée de manière assez déplorable pour construire des chansons alors qu'elle est efficace pour la médecine et pour d'autres choses, moi je suis plus trop demandé pour écrire et composer des chansons, parce que je suis un humble compositeur. Donc je me suis mis à faire cette application où je suis libre de faire ce que je veux. Donc je fais du jazz, je fais du flamenco, et j'ai construit une anthologie de la chanson française sur 1700 titres, qui va faire 60 albums, j'en suis à 40, il en reste 20 à faire. Et donc je me suis plongé dans le répertoire d'artistes français que j'ai découvert entre donc ma naissance et 77-78, où là j'ai basculé dans l'adolescence, dans la musique rock. Et toute cette période-là, je me suis aperçu que je ne l'avais jamais exploité, et c'était quand même, cette période est quand même bourré de points d'ancrage de ma vie. Alors on peut parler des divorcés, de Michel Delpech, on peut parler de Michel, de Gérard Normand, de Dites-moi, de Michel Jonas, de Je l'aime à mourir, de Francis Cabrel, et puis sans parler des chansons de Claude François, de Johnny Hallyday, que j'avais en poster dans ma chambre, ou même de Michel Polnareff. Et toute cette période en musique, je l'avais jamais vraiment exploitée. Et en tant que compositeur, je me suis amusé, grâce à cette anthologie de la chanson française, à chaque fois que j'en finissais une, ben je me suis amusé à essayer de m'imaginer comme un compositeur de ces artistes. Et j'ai été plus loin puisque j'ai fait écouter à ces artistes les albums que j'avais fait sur eux. Imaginez-vous un artiste d'aujourd'hui, Francis Cabrel, Julien Clerc, Michel Jonas, enfin bref, recevoir 20 chansons chantées par, pas par un inconnu, mais par quelqu'un qu'ils connaissent et qui a produit un album sur leur répertoire. Donc ça doit être un peu bizarrement troublant, mais c'est, ça doit faire plaisir. C'est d'abord pour les remercier, c'est parce que c'est aussi un travail que j'ai fait parce que j'avais envie de comprendre et m'investir aussi dans l'application pour proposer des choses à mes abonnés. Mais ça m'a amusé d'aller voilà, taquiner, me positionner juste en interprète sur un répertoire que j'aime de la chanson française et que aussi j'ai découvert. Parce qu'encore, quand on parle de Berger, je connais tout le répertoire, mais quand on va chercher du Lama, on va travailler sur du Beco, du Brel, du Brassens, on connaît pas forcément tout. Quand je dis tout, c'est à la radio, on passe les tubes.
Toutes les phases B.
Mais il y a les chansons d'albums. Et souvent, les chansons d'albums, pour un artiste, c'est des chansons aussi importantes, mais qui sont dans la deuxième catégorie, dans la deuxième couche, qu'on aime autant que les chansons qui sont sorties et qu'on aurait bien aimé qu'on écoute. Mais ces chansons sont vraiment magnifiques. Donc, j'ai découvert des chansons et par chance, j'ai découvert un répertoire incroyable. Donc, en faisant cette application, en refaisant ces chansons sur cette anthologie, en fait, j'ai redécouvert tout le répertoire parce que j'ai voulu tout écouter. Donc, je suis devenu spécialiste de la chanson française. Et j'ai quand même mon diplôme de musicologie, mais de spécialiste en chanson française. J'étais déjà entre 77 et 85 pas mal au niveau du rock.
Ouais, ça devait être pas mal.
Mais là, j'ai voulu découvrir. Et j'ai découvert des merveilles. Et donc, je me suis amusé à essayer de faire comme si j'étais compositeur de ces artistes. Parce que j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Alors évidemment, j'ai rien compris. Mais il y a quand même des éléments de langage. Qui sont les sons, etc., les mots utilisés. Et donc, je me suis amusé. Donc ça, c'est vraiment une des clés de cet album et aussi l'utilisation du son organique uniquement, du vrai son, et non pas travailler sur l'intelligence artificielle, toutes ces saloperies qui tout d'un coup, qui donnent l'illusion à des gens qui sont musiciens ou qui sont chanteurs. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur une période qui est de 66 à 77 où on a évolué dans la prise de son avec les micros, les amplis, où on a évolué dans l'enregistrement avec les consoles. Alors au début, c'était en direct, une piste, deux pistes, quatre pistes, huit pistes, 16 pistes. Et donc on a assisté à toute cette évolution du son. Et c'est vrai que juste avant les synthés, l'apport des synthétiseurs, ben, on a travaillé comme ça sur de l'organique avec des pianos, des Wurlitzer, des Rhodes, des guitares, 12 cordes, 6 cordes, 4 cordes, des basses, etc., des batteries. Et il y a eu un vrai travail de son très, très intéressant que moi, je n'avais jamais traité dans mes albums. Et là, je voulais vraiment qu'Héritage soit non seulement l'héritage et la transmission de ces artistes exceptionnels, mais aussi d'un son exceptionnel qui est reproduit quelquefois par des artistes différents, qui sont beaucoup plus roots. On peut parler de Lenny Kravitz, on peut parler je parle des artistes modernes, évidemment, ou de ceux qui font du rock et qui aiment bien travailler justement avec du pur. Mais tout ce son-là, à l'époque, enregistré, il n'y avait pas de synthé, il n'y avait rien d'autre que toi, ton groupe, ton instrument, démerde-toi. Et plus on était technicien, et plus on était un bon musicien, et puis le truc était bon. Et si en plus il y avait des bons compositeurs et des bons arrangeurs, comme l'apport de George Martin pour les Beatles, par exemple, ça créait des choses. On a appris à mettre les bandes à l'envers, des choses comme ça. Mais on avait des putains de musiciens. Clapton, David Gilmour. Et puis, mais alors le truc, c'est qu'en France, alors évidemment, je ne parle pas de McCartney, qui est mon maître à penser de compositeur, mais en France, en fait, on avait aussi des super musiciens. Des super arrangeurs. Et quand on écoute certains albums anglo-saxons et certains albums français, en fait, ils sont traités exactement de la même manière, enregistrés en direct. Comme par exemple, quand on écoute, je ne sais pas, les productions, qu'est-ce que je pourrais vous dire le premier album de Gérard Lenormand, par exemple, quand vous écoutez, c'est une perfection sonore. On a Jean-Claude Petit, on a des super musiciens. Vous écoutez Le Traitement, ou des albums de Gainsbourg à l'époque aussi, ou des premiers albums de Sardou, de Gilbert Bécaud. Vous voyez, on a un son incroyable. On n'a pas trop l'arrivée de la réverb des années 80 qui a un peu foutu le bordel dans les sonorités vocales, ce qui est un peu dommage. Alors, on a découvert la réverb, tout d'un coup, la réverb, hop là, et on y va à fond. Et ça, c'était vraiment les années 80, années 90. Alors que les années 70, elle a été utilisée justement pour faire des effets, des trucs à l'envers. On avait le délai de 2 secondes de John Lennon, qui était vraiment exceptionnel, qu'on réutilise nous avec Calogero. Je sais, on en parle souvent quand on parle de voix, on aime bien cet petit effet, beaucoup utilisé par Kravitz justement. Et donc en fait, toute cette période-là, elle est une période très très importante au niveau du son, du traitement des sons, et c'est pour ça que les ingénieurs du son étaient vraiment très importants, parce que la prise, le micro, voilà, le micro, si on prend le micro, il faut prendre la batterie au bon endroit. Si on le prend là, évidemment, ça va pas sonner pareil. Mais on peut le prendre aussi au-dessus. On peut faire comme Phil Spector, qui lui produisait. Alors, il faisait jouer 2 batteries en même temps. Il mettait les 2 basses. Enfin bon, il y a eu un tas d'expériences qui est arrivé avant les machines. Voilà. Les seules machines qu'ils avaient, c'était ben, les consoles. On enregistre avec les micros. Et fallait vraiment. Les ingénieurs du son étaient vraiment c'était vraiment les maîtres de l'endroit, les spécialistes. Et moi, je travaillais avec un mec comme ça chez moi qui. Au fur et à mesure qu'on fait des albums, eh ben, il a vraiment appris à faire des prises de son et nous, on fait que du vrai son. Alors, on se casse la gueule, on se trompe, on trouve des idées et quelquefois, quand on a des maladresses, hop, attends, garde, ça fait un truc là, c'est comme, je sais pas, pour fan par exemple. Si j'existe, c'est d'être fan, ça c'est une erreur par exemple. Il a mal copié le cœur. Et en fait, ça fait comme un délai. À dire, ah non, c'est super. Faut toujours se méfier des erreurs dans le studio. Faut attendre et pas se précipiter pour corriger l'idée qu'on avait, mais réfléchir parce que peut-être qu'elle peut nous servir pour faire quelque chose d'original auquel le cerveau n'aurait pas pensé. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai voulu concevoir un album héritage à la manière des enregistrements de l'époque. On enregistre, prise 1, prise 2, prise 3. On fait un re-re pour un solo, on fait un re-re pour des voix, etc. On a fait les voix après, mais tout est en direct. Et tout le son de mon album, j'allais dire de notre album, puisque ce sont des musiciens qui ont joué, réalisé aussi avec Yuri Benaïs, Fred Nardin, Sébastien Chouard, Michel Aimé à la guitare, Abdelaziz Satie à la basse, et aux batteries, il y a Christophe Deschamps et Romain Saron. Tous ces artistes-là sont réalisateurs avec moi de l'album, parce que c'est eux qui ont joué. Et on a voulu que ce soit avec les éléments de langage de cette époque, et de l'époque de ces grands artistes ou des artistes qui sont un peu héritiers, comme Gauvin Serres qui va chanter dans l'album, comme Thomas Dutronc, comme d'autres artistes qui seront dans le volume 1 aussi, et qui sont aussi des héritiers de cette période. Cette période-là nous a donné envie de faire de la musique. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que à cette époque, on a entendu, et ça nous a amené à avoir envie d'écouter et d'acheter nos premiers albums, et de faire, que ça devient notre passion et puis peut-être d'en faire notre métier si on a eu la chance de trouver un public. Donc en gros voilà, donc en résumé, cet album c'est nostalgie d'un son particulier qui n'est pas reproduit, qui n'est pas fake, qui est un son qui est fait avec un chemin, avec une expérience et non pas pour appuyer sur le bouton de Suno et fabriquer une chanson d'une manière assez débile et penser que tout d'un coup on est chanteur ou qu'on est musicien. C'est un album vérité avec des artistes vrais et beaucoup d'auteurs-compositeurs. Il n'y a aucun interprète. Ouais. Mais ils sont venus en tant qu'interprètes. Et c'est ça le truc qui est assez drôle. C'est parce que moi, qui n'avais plus de demande pour composer des chansons pour d'autres artistes, là, tout d'un coup, j'ai fabriqué peut-être inconsciemment une espèce de chemin entre eux et moi en leur montrant que j'aimais la chanson française, que j'aimais leur répertoire, en leur faisant écouter à chaque fois, leur envoyant les chansons. Et j'ai fait une espèce d'ouverture, comme un petit endroit comme ça de passage entre nous pour leur montrer et pour leur dire merci. Merci d'avoir été là. Merci pour le partage. Merci d'être encore là. Et aussi pour dire dans cet album, merci de pas oublier. Et c'est la force de votre radio, que sans eux, on n'est rien et que c'est très important de toujours continuer à garder Brel, Ferré, Brassens, Aznavour, et Cabrel, Julien Clerc, Renaud, tout ça, parce que ils ont été des points d'ancrage de notre vie, sans le savoir. Moi, Delpech, je l'ai divorcé, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a à parler de ma vie, lui? Il parle de ma vie, c'est horrible, c'est triste. Et c'est comme ça qu'une chanson démarre, en fait. C'est comme ça qu'on démarre avec un artiste. Et c'est comme ça qu'on décrète qu'une chanson est bonne ou pas bonne. C'est quand elle correspond ou pas à votre vie, en fait. C'est drôle. Et donc, j'ai suivi Michel toute ma vie. Tout ce qu'il faisait, j'écoutais parce que il m'a percé le cœur, quoi. Au moment des divorcés, mes parents ont divorcé exactement la même année. Et c'est pareil pour les autres. Francis, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment, je suis passé à Francis au moment de, à hors saison, il m'a eu, mais, et pourtant c'est un peu après, mais il m'a vraiment bouleversé. Mais je le connais depuis, je l'aime à mourir, quoi. On écoutait sans arrêt ça. On chantait ça, quoi. Dans les colonies de vacances. Michel Jonas, dites-moi, c'est le 45 tours, il était posé. Il était posé, je me souviens, devant la petite pile de disques. Serge Lama, encore plus loin, l'album rouge, avec les glycines. Je me souviens, j'entendais ça de ma chambre, moi qui écoutais Claude François et quand j'étais petit, quoi. J'étais fan de Claude François, on écoutait Johnny, on écoutait, Delpech, j'étais obligé. Et puis, j'avais le poster de Paul Naref, mais pas son cul parce que j'étais trop petit, mais j'avais le chapeau qui était devant son sexe. C'était l'autre poster pudique, qu'il avait fait, la version pudique. Bon, enfin voilà, en gros, en résumé, cet album, c'est ça, c'est de la nostalgie, mais justement, montrer qu'en fait, c'est peut-être de la nostalgie d'une époque où on faisait des vrais sons, où on faisait des vrais albums. Et je sais qu'il y a plein de musiciens qui sont comme ça aujourd'hui, attention. J'en vois, j'en rencontre. J'ai fait des petits bœufs dans des loges et tout, avec des vrais musiciens qui veulent revenir à la musique. Bravo, merci à eux. Apprenez la guitare, apprenez le piano, apprenez un instrument. Arrêtez d'appuyer sur cette saloperie d'intelligence artificielle qui va vous mener à aucun plaisir et vous allez défocus rapidement pour passer à autre chose. Après, vous allez faire quoi? Fabriquer une maison comme ça? Ou fabriquer une voiture en 2 secondes? On s'en fout, quoi. L'important dans la musique, c'est un truc quand même émotionnel. C'est ce que ça procure. C'est ce que ça dit. Tout ce chemin vous donne quelque chose. C'est important dans votre construction, je trouve, dans votre vie. Tous les mots, toutes ces choses-là, la musique, c'est important.
Les textes, en fait, comme c'est quand même justement un travail beaucoup d'orfèvre, quoi, de se mettre à chaque fois dans l'univers de chaque chanteur que vous avez sollicité, artiste, on va dire. Les textes, ça s'est fait comment, le choix?
Alors, j'ai fait 50 chansons pour l'album. C'est vrai qu'à la base... J'étais pas forcément parti, on était parti sur le son. Parce que j'ai des musiciens, mais galactiques, comme on les appelle. J'ai des musiciens qui sont branchés là-dessus, quoi. Y a pas de truc faux avec eux, ça joue. Et moi, je joue même pas sur l'album, hein. C'est eux qui jouent, je suis bien incapable de faire ce qu'ils font. Moi, je suis le cerveau. Pas pour dénigrer, mais en tout cas, je réfléchis, le directeur artistique, et je fais les chansons. On était parti sur du son au début. Et puis après, quand j'ai commencé à proposer les chansons, c'est vrai que il y avait des correspondances, parce que je disais, on pourrait faire ça. Tiens, regarde le son dans l'album de Julien Clerc. Tiens, regarde le son dans l'album de Jonas. Tiens, regarde. Et puis, en fait, mais si, la chanson de Jonas, tu sais, le mur que j'avais fait quand on faisait l'album de Jonas, le mur. Et puis là, je me dis, mais c'est pas mal, en fait, l'idée. Et puis les idées se sont mélangées. Et tout d'un coup, je me suis mis à vouloir composer une chanson pour Julien Clerc. On pourrait faire ça comme ça. Il a pas fait ça. C'est parti comme ça, en fait. Et après, on pense au texte, donc on choisit, et je pense que les textes qui m'intéressent pour un artiste, lui, ça serait plus ça, et j'en fais plusieurs, et après, à la fin, je sais pas, j'en fais peut-être 3-4, et puis après, il y en a deux qui ressortent, les deux, je les enregistre, et puis je les envoie à Julien, qu'est-ce que t'en penses? Mais en sachant que la 1, pour moi, c'était Nénuphar. Donc j'envoie Nénuphar. Elle me dit, super, envoie-moi une autre. Puis il m'envoie la deuxième, voilà. Elle me dit, finalement, je garde Nénuphar. Et à chaque fois, j'avais bon. C'est un travail où t'as besoin de, comment dire, d'abord, c'est de la chance. D'abord, c'est du travail, c'est vrai, mais c'est de l'envie. Mais c'est, il faut vraiment connaître le répertoire pour pouvoir, mais il faut aimer un artiste pour pouvoir connaître son répertoire, pour pouvoir écouter les chansons dernière chanson de l'album. Celui-là qui a pas marché, non, je vais l'écouter aussi, vas-y, fais-la moi, je veux l'écouter. Et après, tu fais, et puis après, voilà, et puis s'ils aiment, tant mieux, quoi. C'est être compositeur, voilà, moi aussi, j'ai essayé de composer des chansons pour l'album de Céline Dion, hein. Moi, la mienne, elle me l'a jeté, hein, donc.
Ça marche pas à tous les coups.
Non, mais c'est juste, ça marche pas, oui, parce que quelquefois, c'est exactement pas du tout ce que la personne veut faire, quoi. Et c'est pour Céline Dion, c'était le cas. Voilà, c'est comme ça arrive. On peut être complètement à côté de la plaque dans les éléments de langage, des mots et du verbe. La musique, bon, normalement, on devrait s'en sortir, mais le verbe, c'est difficile. Alors, on a des auteurs pour ça. On a Lionel Florence, et Pierre-Dominique Burgot, principalement. Et donc, j'ai choisi, c'est du travail. C'est 5 minutes pour faire la mélodie, mais 60 ans pour y penser. Donc c'est ça le truc, en fait.
Ils avaient chacun plusieurs choix et ils en
ont... Non.
C'était plus ou moins déjà déterminé avant.
Pour moi, ouais, okay. C'était déterminé.